12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
Les deux expositions dont nous parlons ce midi sont deux hommages à des artistes reconnus pour leur créativité, leur virtuosité, chacun dans leur domaine. La sculpture au XXe siècle avec cette grande rétrospective Brancusi au Centre Pompidou, la première depuis près de 30 ans. Le dessin et l'estampe avec une très belle collection du Musée des Beaux-Arts de Paris, d'une grande famille vénitienne, les Tiepolo ou Tiepoli, c'était au XVIIIe siècle.
Et on en parle avec vous, Sarah Heiler-Meyer, bonjour. Vous êtes critique d'art et commissaire d'exposition indépendante et on en parle avec vous, Stéphane Correr, bonjour.
Bonjour Géraldine.
Vous êtes critique d'art et commissaire d'exposition, directeur artistique de la galerie Love & Co à Paris. Bienvenue à tous les deux dans les Midis de Culture.
Nous débutons ce débat critique avec la rétrospective du sculpteur roumain Brancusi. L'art ne fait que commencer au Centre Pompidou de Paris jusqu'au 1er juillet.
Un garçon comme Brancusi, le sculpteur qui est mort il y a pas tout à fait un an. À part l'Amérique, il n'avait pas un client en France.
Un jour, avec Léger, je crois, passant dans une rue, vous aviez retrouvé certaines de ses œuvres.
Et nous avons ramassé ces œuvres de Brancusi pour les vendre séance tenante et boire durant 8 jours, 15 jours et faire une noce carabinée.
En 1957, après la mort de Brancusi, c'est l'écrivain Blaise Sandrard qui partage cette anecdote. Mais on peut aussi citer Fernand Léger, Marcel Duchamp, Amedeo Modigliani, Man Ray. Voici les amitiés qu'avait tissé le peintre roumain, arrivé en France il y a 120 ans, en 1904. Très vite, son travail est remarqué par Auguste Rodin, dont il sera brièvement l'assistant. Dans cette rétrospective au Centre Pompidou, on est immédiatement confronté à trois œuvres majeures de Brancusi, Le baiser, La sagesse de la terre et La prière, des années 1907-1908, qui disent tout de sa démarche. Terminé le modelage, l'artiste roumain privilégie la taille directe et le poli. L'exposition met en avant ses sources d'inspiration, sa vie avec une longue frise chronologique. On s'arrête au passage devant une reconstitution de son atelier, vous nous direz en quoi il consistait, et puis le parcours thématique prend le dessus. Nous avançons ainsi au milieu des 120 sculptures réunies pour l'occasion jusqu'à la salle de l'Envol qui porte bien son nom, celle qui réunit devant les baies vitrées du Centre Pompidou son travail sur le motif de l'oiseau qu'il a occupé durant une trentaine d'années. Ces sculptures trônent avec comme décor le ciel et les toits de la capitale. Avez-vous, comme moi, Stéphane Correard, été émerveillé?
Est-ce que je me suis envolé? Oui, alors on va commencer tout de suite par la minute pédante. Il faudrait dire Brancusi plutôt que Brancusi.
Oh non,
mais
c'est
comme
moche,
je n'aime pas les dictates de classe, je propose qu'on continue à dire Brancusi.
Très attentif à la prononciation des noms, vous avez raison.
En tout cas, c'est vrai que ce qui frappe d'emblée, c'est que cette exposition est vraiment marquée par le nouveau président du Centre Pompidou, Laurent Lebon, qu'on a connu avant au Centre Pompidou-Metz et au Musée Picasso. C'est-à-dire qu'il y a tous ces marqueurs, ou ces marottes, on dirait, c'est-à-dire le catalogue en forme d'abécédaire qu'il avait déjà fait pour Dada, une importance énorme accordée aux archives, même quand elles paraissent insignifiantes, ce qu'il avait développé au musée Picasso, et aussi le tour de force de réunir le maximum de versions d'une même œuvre, c'est ce qu'il avait déjà fait en 2016 au musée Picasso, où il était très fier d'avoir réuni les 6 versions du verre d'absinthe. Ici, ça prend un sens différent. L'exposition, effectivement, est superlative, elle est démesurée, même peut-être, vous avez dit 120 sculptures, je crois qu'il y en a en fait 150 quand on compte les autres sculptures que celles de Brancusi. Il y a plus de 200 photos, 50 dessins, donc c'est quasiment impossible. Il faudrait rester des heures, et non pas comme vous et moi, Nicolas, au moment où il y a beaucoup de monde, mais arriver à y aller à un moment plus calme, pour effectivement prendre toute la mesure, si c'est possible, de cet artiste qui lui-même est superlatif. C'est presque, j'ai pensé en visitant l'exposition, un artiste monde au sens du tout monde d'Edouard Glissant qui disait que la totalité monde dans sa diversité physique et dans les représentations qu'elle nous inspire, que nous ne saurions plus chanter dire ni travailler à souffrance à partir de notre seul lieu sans plonger à l'imaginaire de cette totalité. Je cite ça parce que c'est vraiment ce qui est saisissant dès la deuxième salle, effectivement, qui montre en quelques socles, qui réunissent à chaque fois deux œuvres, une œuvre de Brancusi et une œuvre d'un autre artiste, un de ses prédécesseurs, un de ses contemporains ou une de ses influences, comment il a tout absorbé, c'est-à-dire aussi bien Rodin ou Gauguin que de Rhin, des sculptures grecques, asiatiques, africaines. Et tout de suite, on passe dans l'atelier, effectivement, comme vous l'avez dit, qui est l'atelier qu'il a légué à l'État français après sa mort en 57. Et là, on est complètement perdu parce qu'en fait, il a totalement conçu tout le mobilier de son atelier, et notamment on voit égrener une série de tabourets qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à des sculptures de Brancusi. D'ailleurs, il y en a même un, j'ai regardé, qui est signé et daté de 48. Et donc, on voit cette vision totalement totale, en fait, de l'art qu'a Brancusi, c'est-à-dire que l'art se confond avec la vie, l'utilitaire se confond avec l'artistique, toutes les époques et toutes les géographies se mêlent.
Ce qui est intéressant, Sarah Hilaire-Meyer, c'est qu'il y a déjà eu une rétrospective en 95. On connaissait effectivement son atelier qui a été transposé en quelque sorte devant le Centre Pompidou jusqu'au début des années 2000, si je dis pas de bêtises, ou fin 90, en tout cas après il a été fermé. Qu'est-ce que cette nouvelle rétrospective nous apprend de cet artiste roumain ?
Justement par rapport à son atelier, je pense qu'on pourra y revenir parce que je pense pas du tout que l'exposition respecte en fait ce qui se jouait dans son atelier. Mais contrairement moi, en tout cas à vous Nicolas et à Stéphane, enfin j'ai trouvé l'expo très belle. Évidemment c'est une expo importante parce que c'est très rare de voir autant de Brancusi au même endroit et en vrai. Mais pour ma part j'ai été un petit peu déçu.
Alors dites-nous pourquoi.
Parce que en fait je crois que j'ai trop lu le catalogue avant de me rendre à cette exposition. On ne cesse de nous rappeler dans ces pages que contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord, la schématisation des formes par Brancusi, l'heure est pure, elle ne vise pas à révéler une essence immuable, statique, mais au contraire une essence dynamique, c'est-à-dire la force de déploiement et d'accroissement dont toute forme ou toute entité vivante serait habitée, serait l'expression. Brancusi dit d'ailleurs dans des entretiens que rien n'est fixe, que rien n'est immobile, qu'il cherche à produire des formes en mouvement, et par exemple à propos de l'oiseau, ce motif qui revient très régulièrement, il dit qu'il cherche pas à exprimer l'oiseau, mais l'envol, l'élan. Ce qui fait qu'il y a une tension dans ses œuvres entre leur aspect d'un côté clos et fini, et de l'autre leur tendance lorsque l'on tourne autour d'elles, du fait de leur courbe dynamique et d'autant plus si leurs surfaces sont réfléchissantes, à constamment se transformer. Alors cette exposition, quoique tout en courbe et contre-courbe, elle est sinueuse, eh bien je trouve qu'elle penche plutôt du côté du statisme. Alors ça tient à des questions de sécurité, puisque les sculptures sont très fragiles, il faut les mettre à distance, sur des socles certes très
on
bas.
On nous dit tout de suite de ne pas toucher interdiction de toucher, elles sont parfois sous verre.
Exactement.
Et à distance, parce qu'il y a un socle effectivement qui nous empêche d'approcher trop.
Tout à fait. Donc on peut pas tourner autour, d'autant plus quand elles sont placées contre les murs. Mais cet aspect un peu figé, je trouve, il tient aussi à un choix curatorial qui consiste, contrairement à ce qui a été fait en 95, à rassembler constamment les œuvres par série. Ce qui fait que, en fait, cette accumulation, à mon sens, elle neutralise un peu la force individuelle des pièces. Les meilleurs moments de l'exposition, d'ailleurs, sont ceux où on voit des pièces seules.
Alors, lesquelles, dites-nous.
Il y a par exemple la Leda, c'est donc une forme de cygne qui est placée dans une salle noire avec seulement une lumière zénitale. Elle tourne, comme c'était le cas dans l'atelier de Brancusi. Il faisait tourner ses sculptures sur des socles avec roulement à billes. Et donc ça permet à la sculpture de constamment se transformer. Mais le problème aussi de cette accumulation systématique des œuvres par série, c'est qu'elle permet pas de voir le comment les formes se génèrent d'une série à une autre dans une sorte de mouvement continu ou de productivité infinie qui est celle du vivant et de la nature, dont justement Brancusi cherche à saisir les manifestations en fait singulières. Et c'est ce qu'il faisait dans son atelier. Dans son atelier, c'est jamais la même série. C'est un coq avec un nouveau-né, avec une origine, avec un commencement du monde. C'est pas le cas ici. En fait, il y a quelque chose d'un peu figé. Voilà.
On s'arrête sur l'atelier, Stéphane Corrard, ou vous voulez répondre à Sarah ?
Non, je voudrais répondre à Sarah, parce que allez-y. J'ai pensé exactement le contraire. Pourtant, justement, comme je l'ai dit, parfois, il y a une espèce de tendance au tour de force de la part des commissaires qui est, j'ai pu le dire pour Laurent Le Bon, d'accumuler les mêmes versions d'une même œuvre. Et au départ, on se dit, mais pourquoi finalement 10 oiseaux dans l'espace ? Est-ce que 8 n'auraient pas été suffisants, etc. Ce que je trouve passionnant, justement, c'est que c'est ça nous amène à réfléchir profondément sur cette idée de variation et surtout de se rendre compte que Brancusi n'a finalement inventé, je dirais, qu'une dizaine de formes qu'il a reprises effectivement constamment, qu'il a quasiment tout inventé avant les années 20 et qu'il a ensuite repris jusqu'à la fin. Bah, elles sont iconiques, hein, le baiser, la princesse X, on dirait un phallus, le torse de jeune homme, etc. Mais quand on les met toutes côte à côte, on se rend compte que qu'est-ce qui change en fait plus que l'évolution de la forme elle-même ? C'est le socle, évidemment. Et le socle, c'est la grande affaire de Brancusi, c'est ce qu'il a apporté en fait à la sculpture moderne. C'est ce qu'on dit généralement, mais sans finalement vraiment se poser la question de qu'est-ce que ça apporte profondément. Ce que je trouve magnifique, et j'y ai pensé justement avec les tabourets qui sont des sculptures de Brancusi, parce que je me suis dit finalement, quand quelqu'un s'asseyait dans son atelier sur ce tabouret, ben, il devenait la sculpture. lui-même et le tabouret était le socle. Donc on se rend compte que dans son travail, et c'est ça qui est passionnant, le vivant prend une place de plus en plus importante. Et si au début, effectivement, c'est quasiment toujours des portraits, des visages, le nouveau-né, la princesse X, des torses, etc. Très vite, on voit d'ailleurs dans les photos, parce qu'il y a 200 photos, qui sont pas traités comme un corpus à part, alors que pourtant, justement, l'historiographie moderne tend plutôt à accorder une très grande importance et à considérer la photo de Brancusi comme une pratique autonome. Là, elle est volontairement diluée dans l'exposition, mais on voit que la plupart des photos sont effectivement prises dans l'atelier et montrent des sculptures en situation, mais petit à petit, il y en a qui représentent des animaux dans la nature, dans les eaux, et très vite, en fait, tous les motifs qu'il invente à partir des années 20 sont des animaux. Le poisson, l'oiseau dans l'espace, la tortue, le coq, le phoque, la tortue, etc. Et ça, je trouve que c'est une réponse extraordinaire à Duchamp. D'ailleurs, il y a un dialogue avec Duchamp constant, et on sait le respect que se vouait Duchamp a vécu en fait toute sa vie de la vente des œuvres de Brancusi, parce que l'anecdote est connue et rappelée que Duchamp visite avec Brancusi le salon de l'aviation en 1912 et lui dit « il n'y a rien de plus beau qu'une hélice », et d'ailleurs il y a une hélice dans l'exposition, et en fait Brancusi lui répond « mais non, ce qu'il y a de plus beau, c'est la nature, c'est les formes animales », et ça je trouve que c'est vraiment très intéressant, parce que finalement, qu'est-ce que c'est que le socle ? C'est la réponse à Duchamp qui lui fait rentrer l'objet usuel dans le musée sous sa forme industrielle, mais en fait Brancusi, en plaçant ces formes animales qu'il retouche finalement quasiment pas, le phoque c'est effectivement l'essence du phoque, c'est sur le socle qu'il le pose, et c'est comme ça qu'il le fait rentrer dans l'histoire de l'art.
Est-ce que c'est ça l'intérêt de cette exposition aussi, c'est de rappeler lui, comment il considérait son atelier? On entre d'abord dans un grand couloir noir avec des photos en noir et blanc de son atelier, un passe Ronsin dans le 15e en noir et blanc sous la neige, ça c'est le premier contact avec l'atelier, puis ensuite il y a cette reconstitution de l'atelier, c'était un espace vivant d'ailleurs pour lui l'atelier, on pouvait venir dans son atelier, il y avait une forme de d'ouverture en tout cas à cette époque-là, ça arrive d'ailleurs.
Oui, et justement ça passait aussi l'aspect vivant de son atelier par les socles, et j'aimerais bien y revenir parce que cette présentation par série d'œuvres, elle a ses limites, mais elle permet effectivement de voir un des principaux procédés de Brancusi pour créer cette tension entre statisme et mouvement. Donc c'est effectivement, ça passe par le jeu combinatoire avec les socles qu'il crée lui-même, ils peuvent être en marbre, en bois, en pierre, ils sont empilés les uns sur les autres, entre 1 et 4, et ça ne cesse de pouvoir permuter selon différents jeux combinatoires, ce qui détermine à chaque fois un nouvel aspect pour une même sculpture qui va se combiner avec différentes textures, avec différentes formes et selon différents rythmes visuels. Cela dit, justement, cette tension entre statisme et mouvement, elle passe aussi par l'inscription des sculptures dans l'espace où elles sont présentées, en fonction duquel elles se modifient. Donc cette inscription, elle passe par leur surface en métal réfléchissant, mais elle passe aussi par le fait que les socles pour Brancusi font donc partie intégrante de l'œuvre, de telle sorte qu'il n'y a plus de séparation, en fait, entre notre espace et leur espace. Et malheureusement, justement, ce dialogue entre la sculpture et l'espace, la sensation que la sculpture presque jaillit de l'endroit où elle se trouve, elle est neutralisée, justement, en raison de ces dispositifs de sécurité, de ces socles qui redoublent le socle, qui donc, parfois d'ailleurs, ils peuvent être plus hauts, mais ça dénature la sculpture de Brancusi. Et je dirais que c'est une forme de sacralisation, certes qui est propre au musée, mais qui dévitalise en partie ces sculptures, et qui contrevient aussi à ce qu'il disait à propos d'elles, à savoir qu'il fallait pas les respecter, il fallait les aimer, avoir envie de jouer avec elles. Et justement, c'est ce qu'il faisait dans son atelier, en les présentant continuellement de manière différente. Il y avait aussi des présentations très théâtrales, il les recouvrait de tissus que soudain il les retirait, il les faisait tourner donc sur ses socles à roulement à billes. Et j'ajoute par rapport à cette histoire de socle, que c'est quand même aussi un des principaux héritages de Brancusi pour la sculpture contemporaine, à savoir le fait de supprimer l'idée que la sculpture est autonome, qu'elle est séparée et indépendante de son environnement, puisqu'au contraire, chez Brancusi, elle est en grande partie déterminée par lui. Cela dit, après, peut-être qu'on pourrait revenir sur les photos, je trouve que c'est effectivement un élément très important de cette exposition qui permet de rejouer le mouvement des œuvres.
Alors justement, il y a des choses qu'on apprend, donc on a dit avec des grandes, des œuvres qui sont, auxquelles on est confronté tout de suite, notamment le coq, cette salle très blanche, il y a cette salle avec le baiser, etc. Et puis ensuite, il y a toute une grande frise chronologique qui raconte sa vie, c'est là où sont aussi mis en avant les documents, les archives, c'est peut-être le plus, et les photographies, c'est le plus de cette exposition, d'avoir ces photographies, ces archives en confrontation avec les sculptures de Brancusi qu'on peut avoir effectivement dans la tête, mais qui viennent nous apporter peut-être plus d'informations sur ces œuvres, Stéphane.
Oui, c'est notamment l'apport par rapport à l'exposition de 1995, parce qu'en fait, fait, la présence de Brancusi dans les collections nationales s'est faite en deux temps. En 57, après sa mort, il a légué l'atelier. Puis en 2001, après la mort de ses exécuteurs testamentaires, Dumitrescu et Istrati, c'est les objets, justement, usuels, les outils, beaucoup de choses qui sont à ce moment-là rentrées en collection, y compris toutes les archives, donc les lettres, etc. Et c'est vrai que, quand je dis, c'est vraiment le seuil entre la vie et l'art qui est en permanence, qui se joue chez Brancusi, par exemple. Effectivement, il y a des moments pour moi inoubliables dans cette exposition. Vous avez cité, effectivement, ces 10 oiseaux dans l'espace qui se découpent sur le ciel de Paris, sur une des plus belles vues de Paris. C'est absolument sublime. Et il n'y a qu'à Paris qu'on peut faire ça. Mais il y a aussi les deux portes, je trouve, que c'est un moment très émouvant. Il y a la porte de son atelier qu'il a sculpté lui-même et qui était le seuil entre la partie privée et la partie publique, entre guillemets, de son lieu de vie et de travail, qui se redouble d'une gigantesque porte d'une ferme roumaine
en
bois qui vient de la région d'où il est lui-même originaire. Et ça, je trouve que c'est absolument magnifique. Et il y a des choses de cet ordre-là sur la vie. Par exemple, il y a une vidéo que je ne connaissais pas où Marcel Duchamp, Marie Reynolds et Brancusi font la fête dans l'atelier avec Ezra Pound pour fêter quoi ? L'installation d'une nouvelle cheminée qui a été construite et dessinée par Brancusi. Je trouve que c'est magique. On aurait envie d'avoir vécu des moments pareils.
Sarah, la meilleure pour terminer sur les photographies, qu'est-ce que ça vous a vous apporté ?
Je trouve qu'elles permettent de contrebalancer le statisme de l'exposition. C'est un médium qu'il a, pour rappel, qu'il a utilisé à partir des années 20 pour jouer sur les réfléchissements lumineux de ces sculptures et en montrer les puissances de déploiement. Certaines sont assez incroyables parce qu'elles donnent l'impression en fait que les sculptures échappent à leur propre contour, qu'elles s'étendent dans l'espace sous forme de rayons lumineux ou même qu'elles sont constituées de rayons lumineux. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et ce qu'elles permettent de voir aussi, c'est qu'il n'y a pas de point de vue idéal sur ces sculptures, sinon en fait la perception de leur dynamique. Pour la documentation aussi qui est dans l'exposition, ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle permet de sortir de l'idée d'un Brancusi moine qui serait isolé mais est en train de méditer constamment dans son atelier tout de blanc vêtu. Là, cette documentation, elle permet de le réinscrire dans son contexte culturel et de le montrer comme quelqu'un de très vivant qui aimait sortir, recevoir, faire la fête, en particulier avec ses amis dadaïstes. Donc c'est plutôt...
Brancusi, ou devrais-je dire Brancouche, désormais, l'art ne fait que commencer. Une exposition jusqu'au 1er juillet 2024 au Centre Pompidou. Et pour ceux et celles qui ne peuvent pas venir à Paris, il y a le catalogue qui est disponible aux éditions Centre Pompidou.
Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Les tiepolos, maintenant on parle des tiepolos inventions et virtuosités à Venise. C'est jusqu'au 30 juin 2024 aux Beaux-Arts de Paris.
Quand on regarde ces grandes compositions, ces vastes fresques, ces plafonds, on se fait une autre idée de Tiepolo, qui, loin d'être un artiste de décadence, est un maître non seulement de grâce, mais encore de puissance et de santé.
Giambattista Tiepolo est le fils d'un capitaine de navire marchand vénitien. C'est donc à Venise, au XVIIIe siècle, qu'il va faire ses armes et devenir l'un des grands noms de la peinture et de la gravure italienne. Les Tiepolo, c'est une histoire de famille avec ses deux fils, Gian Domenico et Lorenzo. Ils deviennent des virtuoses, connaissent un très grand succès et vont d'ailleurs diffuser leur art à travers l'Europe grâce à l'estampe. Et c'est ainsi que les Beaux-Arts de Paris possèdent aujourd'hui le deuxième fonds le plus important de dessin de cette famille en France, le premier étant à Montpellier. Cette exposition aux Beaux-Arts permet donc de voir notamment cette collection y rassemblée dans un même lieu pour la première fois depuis 30 ans, mais pas tout, mais pas seulement, dans un parcours plutôt intimiste, au plus près aussi des œuvres exposées. Sarah Hilaire-Meyer, qu'est-ce qu'on apprend dans cette exposition ?
Justement, c'est peut-être un peu le problème de cette exposition, c'est qu'elle est plus intéressante par ce qu'elle raconte que par ce qu'elle montre. C'est sûr que c'est pas aussi renversant que Brancusi. Et en l'occurrence, elle porte donc sur l'enseignement artistique et le lien entre héritage et création, puisque Tiepolo, père, a enseigné la peinture et le dessin à ses fils dans son atelier. Il a par ailleurs dirigé une académie à Venise qui ensuite a été dirigée par l'un de ses fils, Domenico. Donc ce qu'on voit, ce sont des dessins d'études, des exercices graphiques dont il est vraiment, difficile de distinguer ceux qui reviennent au fils de ceux qui reviennent au père, puisque, en fait, leur iconographie et leur style graphique sont quasiment indiscernables. De fait, les estampes de Domenico sont en grande partie des interprétations des peintures du père, avec quelques variations. Donc on pourrait se dire que cette exposition, elle consiste à montrer qu'il n'y a pas d'artiste sui generis, que toute création, elle est habitée par d'autres créations, ce qui est certes juste, mais je trouve que c'est un petit peu extrême ici, puisque créer se réduit finalement à produire des variations sur le même, à jouer à l'intérieur d'un cadre donné, en y faisant éventuellement entrer de nouveaux motifs, mais sans jamais le mettre en question, le bousculer. Or, l'histoire démontre qu'il y a des artistes qui ne se contentent pas de reconduire des schèmes de vision institués. Voilà, moi je trouve ça un peu curieux dans le cadre d'une école, justement, qui est celle des Beaux-Arts, hein, parce que ça se passe à l'école des Beaux-Arts. Cela dit, ce que cette exposition, elle démythifie aussi, enfin, vraiment, c'est peut-être la vision de l'artiste romantique pris dans les affres de la création, qui sacrifie tout à son œuvre, à commencer par l'argent, parce que Tiepolo concevait son atelier comme une entreprise familiale où s'élabore un style reconnaissable, quasiment une marque de fabrique que les fils apprennent, reproduisent et diffusent par des gravures de manière à se lier à davantage de collectionneurs et de commanditaires. Donc c'est pas du tout ici la tragédie grecque, hein, les fils font tout à fait alliance avec les pères.
Alors justement, un atelier de formation, cet atelier Tiepolo, Stéphane Coréard, dans une école de beaux-arts à Paris, ça a presque effectivement tout son sens, puisqu'on voit des dessins qui ont été réalisés et qui ensuite parfois font référence à d'autres œuvres à Venise qu'on a pu voir, puisque les Tiepolo ont inondé aussi Venise de leurs peintures et de leurs fresques.
Absolument. Alors moi, au contraire de Sarah, j'ai été vraiment bouleversé par cet aspect-là. La directrice de l'école, Alexia Fabre, écrit dans la préface du catalogue que l'exposition révèle et questionne les enjeux de la formation, de l'atelier, de l'influence et de la résistance éventuelle, de l'emprise artistique ou de la prise d'autonomie, autant de questions qui traversent l'histoire des Beaux-Arts de Paris. Effectivement, moi, je n'ai pas... j'ai été très surpris de penser, en regardant ces œuvres qui datent donc du XVIIIe siècle, de penser à des actuels enseignants des Beaux-Arts de Paris. Par exemple, il y a un projet de plafond de Francesco Guardi qui a été réalisé vers 1770, qui m'a fait penser irrésistiblement à Stéphane Calais qui enseigne à l'étage du dessus, ou alors Johann Sfar, l'auteur de bande dessinée, qui lui aussi est prof aux Beaux-Arts de Paris. J'ai compris grâce à ça en fait que l'héritage peut-être de cette peinture classique et d'un art comme celui des Tiepolo, aujourd'hui il est beaucoup plus dans la bande dessinée que dans l'art contemporain. Il y a par exemple des caricatures de religieux ou de gentilhommes par Giambattista, ou alors une scène d'auberge incroyable, la Malvasia, par Gian Domenico Tiepolo, qui est absolument une merveille, on dirait de l'André Julliard pour les gens qui aiment la bande dessinée. Mais l'exposition est aussi justement une réussite parce que des nombreuses œuvres, même si elles ne relèvent pas d'un art de la rupture, comme l'a dit Sarah, m'apparaissent quand même comme très contemporaines. Par exemple, en cette année où on fête le centenaire de la parution du manifeste du surréalisme, j'ai trouvé que les variations autour des satyres, des faunes, des faunesses, par Gian Domenico et surtout Gian Battista Tiepolo qui fait ce duo de satire. Pour moi, c'est un dessin de Léonore Fini qui aurait été fait 150 ans après, qui vient elle de Trieste alors qu'eux viennent de Venise. Il y a aussi un magnifique dessin de Polichinelle faisant la cuisine de Gian Battista Tiepolo qui est absolument stupéfiant. Il y a une dizaine de clones, c'est comme si toute l'humanité se résumait à des Polichinelles et ils sont là autour d'un chaudron dans une éblouissante composition de postures et d'attitudes. Et il y a des moments de dialogue entre artistes, parce qu'en fait, il y a ces trois artistes, mais il y a aussi certains de leurs élèves, de leurs contemporains, comme Canaletto, comme Rembrandt. Il y a un mur de vieillards enturbanés, de philosophes antiques ou de prophètes orientaux, où il y a des gravures de Rembrandt et trois dessins de Gian Battista Tiepolo. Il y a une tête de vieillard qui est absolument sublime, de 10 cm par 10. On aurait dit la vie de Victor Hugo, c'est extraordinaire.
Dans le catalogue, on souligne la grande modernité de ces dessins. Alors moi, j'ai deux questions, Sarah Lameller. Quel est le statut de ces dessins au moment où ils sont faits par ces artistes à Venise au XVIIIe siècle? Quel est l'objet de ces dessins? Et la seconde question, c'est quelle est la modernité? En quoi est-ce qu'ils ont été avant-gardistes au XVIIIe siècle à Venise, ces Tiepolo?
Alors le statut, il y a à la fois des études hein, qui servent pour des tableaux, il y a aussi des exercices graphiques libres, et puis il y a les estampes dites d'invention, qui sont d'abord les estampes d'interprétation, hein, qui sont des variations à partir des peintures du père, et puis des gravures, des estampes d'invention, comme par exemple la fuite de la Sainte Famille en Égypte de Domenico. Leur statut néanmoins, c'est de participer, elles participent d'une logique en fait entrepreneuriale, commercial, parce qu'à ce moment-là, à Venise, au XVIIIe siècle, le marché de la gravure est très important, il y a beaucoup de collectionneurs, et par ailleurs, la gravure, l'estampe, elle permet de diffuser justement son style, et puis de telle sorte en fait, d'obtenir davantage de commandes. Ça permet de montrer sa dextérité, son répertoire imaginable. Après, pour ce qui est de la modernité, moi, pour revenir sur les schèmes, les cadres de vision qui peuvent être bousculés, déplacés, il faut peut-être rappeler que Tiepolo, c'est un peintre rococo, et que le rococo, c'est une version quand même édulcorée, hein, d'énervé du baroque, qui lui produisait une révolution du regard en liant entre elles des figures dans des mouvements continus qui décentrent le regard de telle sorte que le spectateur n'est plus le centre depuis lequel s'organise l'espace pictural, comme c'était le cas avec la vision renaissante. En fait, le baroque, c'est la traduction lyrique, dramatique, ni plus ni moins de la révolution copernicienne, hein, qui a lieu au XVIe siècle. C'est-à-dire, c'est la fin du géocentrisme et d'un univers conçu comme fini, au profit d'un univers désormais conçu comme infini en constant mouvement. Et ce qu'on voit ici avec Tiepolo, c'est que les mouvements n'ont plus de tension dramatique, on le voit y compris dans les dessins. Ils relèvent davantage par leur mollesse et par les couleurs pastels quand il s'agit de peinture, je dirais de la guimauve un peu ou de la crème fouettée. Donc c'est ce qui relève peut-être d'une manière d'habiter le monde qui en tout cas n'est pas inquiète comme c'était le cas avec le baroque. Mais je dis pas qu'il y a pas de qualité dans ces dessins. Il y a un vrai plaisir à regarder certaines de ces scènes, en particulier les scènes de genre avec des satyres. Effectivement, les polichinelles aussi sont assez incroyables. Ils font penser à des Miyazaki. C'est pas la question, hein. Mais
je vais donner la parole à Stéphane Correa qui, au moment de Guimauve et Crème fouettée, s'est un peu étouffé. Alors,
je pense que les Tiepolo là où ils sont seront sensibles au fait que Sarah leur reconnaisse quand même quelques qualités. Mais je trouve très intéressant et la programmation, je la salue de votre émission parce que c'est pas nous qui choisissons les diptyques d'exposition. Mais là, effectivement, non seulement les expositions sont antagonistes puisqu'il y en a une qui est superlative, effectivement, et l'autre est intimiste, par exemple. Mais elles dialoguent aussi. Et là, notamment autour de cette question de la variation qui là est traitée dans cette exposition sous le prisme de l'invention, comme elle le proclame d'ailleurs. Robert Heinemann, le peintre dont on parlait, je crois, la semaine dernière, disait que la question n'est jamais quoi peindre, mais seulement comment peindre. Mais évidemment, c'est la question qui se posait à ces peintres de l'âge classique, puisque finalement, ils n'avaient accès qu'à un nombre assez limité de sujets, et que la question, c'était comment renouveler l'iconographie, finalement, de ces thèmes. Et là, c'est perceptible dans l'exposition, justement, grâce à des diptyques ou des ensembles. Il y a effectivement la fuite en Égypte qui est juste éblouissante de transformation de point de vue, de comment à partir d'une anecdote extrêmement pauvre finalement on peut inventer tout un récit, tout un voyage. Mais il y a aussi un duo de dessins sur la Sainte Famille par Giambattista Tiepolo ou un autre sur le couronnement de la Vierge, et là c'est passionnant de voir comment l'invention a sa place dans cette répétition.
Invention et virtuosité à Venise, c'est le titre de cette exposition donc de la famille des Tiepolo. C'est jusqu'au 30 juin prochain aux Beaux-Arts de Paris. Le catalogue est lui aussi disponible aux éditions Beaux-Arts. Merci à tous les deux, Sarah Hilmeyer, Stéphane Coréard. Toutes les références, on vous les met sur le site de France Culture à la page de l'émission. Vous pouvez réécouter ce débat critique et tous les autres, tout comme sur l'application Radio France.